Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la sœur Teresa qui se joint à nous maintenant. On saluera les autres personnes qui se joindront par la suite. Donc, hier, à l'occasion de la fête des mères, on a débuté un enseignement sur les cinq femmes qui sont mentionnées dans l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle la généalogie de Jésus. Donc, c'est quoi une généalogie? C'est quand on fait toute la lignée depuis le premier ancêtre jusqu'à un certain individu et on explique de qui a été père de qui lui-même a été père de telle personne, qui a été elle-même père ou cette personne a été père de telle autre personne. Donc, dans l'évangile de Matthieu, de façon assez structurée, Matthieu, qui était un homme de chiffres puisqu'il était collecteur d'impôts, va faire le décompte des différentes générations qui vont se succéder jusqu'à Jésus. Dans l'ensemble de ce texte, dans la grande majorité, on ne parle que des pères. Mais il va y avoir cinq femmes qui vont être mentionnées à travers ce texte. Donc, à cinq reprises, on va dire, ben, telle personne a eu tel enfant avec telle femme. Et c'est surprenant parce que ce ne sont pas nécessairement les femmes les plus en vue. Ce ne sont pas nécessairement celles qu'on cataloguerait comme étant les plus nobles, les plus spirituelles. C'est souvent des femmes qu'on aurait dans la tradition juive de l'époque qu'on aurait laissées de côté, mais non pas miraculeusement, mais dans le plan parfait de Dieu, ces femmes vont apparaître tout au long de ce texte. Je vous nomme les cinq femmes qu'on va étudier cette semaine, ceux qui étaient déjà présents hier devant vos écrans pour la prédication. Vous avez déjà les noms de chacune de ces femmes, mais je les répète quand même pour ceux qui n'étaient pas là. On va nous parler notamment de Tamar, on va nous parler de Rahab, on va nous parler de Ruth, on va nous parler de la femme d'Uri. Celle-ci, on ne va pas la nommer, on va juste écrire la femme d'Uri. Nous, on sait que c'est Bathsheba. Et on va nous parler de Marie, l'épouse de Joseph, Marie qui a donné naissance au Messie, à Jésus. Donc, ce matin, on va débuter avec Tamar. Et quand je vous dis que ce ne sont pas des dames qui sont nécessairement glorieuses, c'est que pour la plupart, ou pour plusieurs d'entre elles, elles ont connu des vies qui n'étaient pas dans la lignée de ce qu'on appellerait l'orthodoxie chrétienne juste et parfaite. La femme qu'on va parler, de qui on va parler ce matin, Tamar, s'est prostituée avec son propre beau-père. Et c'est dans cette histoire-là qu'on va voir la naissance qu'elle va donner et combien elle participe même dans la lignée de Jésus. Lorsqu'on va parler de Rahab, c'est cette prostituée qu'on connaît très bien dans la ville de Jéricho lorsque le peuple d'Israël va faire la conquête. Lorsqu'on va parler de Ruth, on va parler d'une femme qui n'est pas juive, donc qui logiquement ne devait pas être acceptée dans la lignée du Messie, qui ne devait pas donc apparaître dans la lignée de celui qui éventuellement, puisqu'elle va en être la grand-mère, de celui qui va être éventuellement le grand roi d'Israël. Le roi David. De surcroît à cela, on va avoir la femme d'Uri, une femme qui va être amenée de force et auprès de qui David, le roi, va commettre l'adultère et elle va tomber enceinte. Son mari va être envoyé au champ de bataille pour se faire tuer littéralement dans un plan très stratégique, très délibéré, je dirais plutôt, de la part de David. Et enfin, on va parler de Marie, qui assurément a une histoire moins rocambolesque que les autres, mais malgré tout, la réputation qu'elle va avoir pour ce premier enfant, tout le monde va se poser des questions en disant, mais cette femme-là n'est pas supposée être mariée, donc elle est déjà enceinte. Donc il y a tout ce poids sociale qui va être sur elle. Poids que Joseph va essayer de défaire un peu. Il dit, la Bible nous dit qu'il s'apprêtait à la quitter en tout secret pour ne pas que ça lui fasse de tort à elle. Et averti par un ange, il va rester donc auprès de Marie, puisque le Seigneur se présente à eux. Mais revenons aujourd'hui à Tamar. Donc, je lis pour vous le verset, c'est dans Matthieu, au chapitre 1. Je vais lire les trois premiers versets qui vont nous servir de base pour ce matin, qui vont nous parler aussi de Tamar. Donc, Matthieu 1, le verset 1, nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. » Et là, on est rendu au verset 4. Donc, je répète la partie clé. Judas, ou Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Donc, je vous explique un peu l'histoire peu reluisante de Tamar. Tamar va être mariée avec le fils de Judas, le premier fils de Judas, qui s'appelle Er. On trouve l'histoire racontée dans Genèse au chapitre 38 pour ceux qui prennent des notes. Donc Tamar va être mariée avec Er. Er va tomber malade, il va mourir et ils n'auront pas d'enfants. Dans la tradition juive, il y avait cette question du rachat, il y avait cette question de la rédemption. Donc Judas, au décès de son fils aîné Er, il va aller vers Onan, son deuxième fils, et va lui dire, la tradition fait en sorte que tu dois prendre Tamar comme ton épouse afin d'assurer à Er une lignée, afin d'assurer à Er une descendance. Et la Bible nous dit, dans Genèse 38, que la chose ne plaît pas à Onan. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si j'ai des enfants avec Tamar, ces enfants-là vont porter des fonds, de l'argent, une richesse à Tamar, mais pas à moi, puisque cette descendance-là sera considérée comme celle de Er et non la mienne. Alors Onan, à chaque fois qu'il allait vers Tamar pour avoir une relation sexuelle, pour, aux yeux de son père et aux yeux de sa famille, remplir son rôle de rédempteur auprès de Tamar, il va se rendre impur. Textuellement, la Bible nous dit qu'il va se rouler dans la poussière avant d'aller vers Tamar pour éviter que Tamar ne tombe enceinte. L'action d'Onan va déplaire à Dieu parce que Onan va refuser, ce faisant, d'être l'agent rédempteur, l'agent de rachat pour Tamar. Donc Dieu va faire mourir Onan. Ça veut donc dire que Tamar perd son premier mari Er, elle perd son deuxième mari Onan, et Judas, voyant ça, il se dit, j'ai un troisième fils, il s'appelle Sheila, mais Sheila est encore trop jeune. Donc d'ici qu'il ne soit en âge de marier Tamar, je vais demander à Tamar de retourner dans la maison de son père. Donc, il renvoie Tamar et lui dit, éventuellement, Sheila sera en âge et puis je te le donnerai comme mari. Sheila grandit et il n'est jamais donné à Tamar. Mais un jour, Tamar apprend que son beau-père se pointe en ville, là où elle est retournée et là où on l'a oublié en fait. Et la Bible nous dit que Tamar va laisser ses vêtements de deuil, elle va s'habiller et se couvrir le visage et va aller à l'entrée de la ville. Et lorsque Judas va se présenter avec un ami parce qu'il est venu dans la ville pour tondre son troupeau. Lorsqu'il va se présenter à l'entrée de la ville, Judas est veuf. Son épouse est décédée depuis un certain temps. Il voit Tamar, ne la reconnaît pas, la prend pour une prostituée et lui demande d'aller vers elle. Et il lui dit, je t'enverrai un chevreau demain pour payer. Et Tamar lui dit, ben, donne-moi un gage comme quoi que tu vas m'envoyer ce chevreau-là. Donc il dit, d'accord. Alors il lui donne un cordeau, un petit morceau de corde qui lui appartient. Il lui donne son bâton. Il lui donne aussi quelque chose qui sert à mettre un seau. Et donc, il a une relation sexuelle avec Tamar. Il quitte. Et le lendemain, il essaie de retrouver la prostituée à l'entrée de la ville. Mais bien entendu, Tamar est rentrée chez elle. Elle s'est changée. Elle a repris les vêtements de deuil. Et lorsqu'il demande à tout le monde, mais il y avait une prostituée à l'entrée de la ville hier, est-ce que vous pouvez me dire qui elle est et où elle se trouve? Et tout le monde lui dit, mais il n'y a jamais eu de prostituée ici. Donc Judas, de peur d'éveiller des soupçons et d'amener la risée sur lui, comme quoi il est allé avec une prostituée, donc il va laisser tomber en disant, ben, qu'elle garde mon bâton, qu'elle garde ce qu'elle a, puis de toute manière, moi j'allais payer, mais elle n'est pas là, tant pis pour elle. Quelques mois plus tard, on vient annoncer à Judas que Tamar est tombée enceinte. Bien entendu, de cette relation unique qu'elle a eue avec son beau-père Judas. Et là, Judas se met en colère et il dit « Faites-la sortir, on va la brûler. » Mais Tamar est toujours en possession des objets qui lui ont été laissés par Judas. Alors elle envoie dire à Judas, ben l'homme avec qui j'ai couché, c'est l'homme à qui appartient ces objets. Et bien entendu, Judas va vite comprendre l'infamie qu'il a commise. Il va dire, j'ai été en fait beaucoup plus coupable qu'elle. Je lui ai refusé mon fils cadet et c'est moi qui l'ai déshonoré. Donc il ne retournera plus jamais vers Tamar. Il ne la prendra pas comme femme. Mais il va la laisser vivante et bien sûr son fils ou les enfants de Tamar vont devenir la postérité directe de Judas que Er et Onan n'avaient pas pu lui donner. C'est une histoire scabreuse, je suis d'accord avec vous. C'est pas une belle histoire, il y en a de beaucoup plus belles dans la parole de Dieu, mais celle-ci n'est pas jolie. Mais quand on regarde l'ensemble de l'histoire de l'humanité, ben notre histoire n'est pas plus jolie. Et quand on regarde l'histoire de Tamar, de Judas, on se rend compte que ça représente effectivement toute l'histoire de l'Église. En fait, chacune des femmes qu'on va étudier cette semaine va nous amener à saisir une partie de la déchéance de l'homme et de la restauration de l'homme. Aujourd'hui, bien entendu, on parle beaucoup avec l'histoire de Tamar, de comment l'homme s'est perdu. Mais vous allez voir que dans le nom des enfants de Judas, dans le nom de Judas, dans le nom de sa femme, on se rend compte tout ce qui a entouré même le péché initial d'Adam et Ève. Donc le texte est beaucoup plus riche qu'il n'en paraît. Et voilà pourquoi pour un lecteur qui n'est pas averti, ça peut sembler saugrenu de mettre l'histoire de Tamar, mais quand on regarde l'ensemble des cinq femmes qui sont mentionnées dans la généalogie, on va se rendre compte qu'on nous parle vraiment du plan rédempteur de Jésus, du plan rédempteur de Dieu, et que chacune de ces femmes est une prophétie, est une mention prophétique. Et dans le cas de Tamar, ce qui va se passer en elle avec l'arrivée de ses deux enfants, c'est vraiment une annonce prophétique de l'Église qui va naître de Jésus au moment de la Pentecôte notamment. Alors, le premier point que je veux soulever ce matin après cette longue introduction et ce long préambule par rapport à l'histoire qui est quand même importante à connaître pour ne pas se perdre trop. Les noms de Judas et des siens, le nom de Judas et de sa famille, c'est une illustration claire de la chute de l'homme. Judas, pour ceux qui prennent des notes, veut dire l'Éternel sera loué. L'Éternel sera loué. Il s'est marié et sa femme s'appelait Shua. S-C-H-U-A. Donc, Judas se marie à Shua. Et Shua veut dire richesse. Et très souvent, dans la vie de tous les jours, nos problèmes commencent lorsqu'on abandonne la louange à Dieu. La concentration qu'on doit avoir sur Dieu ou la primauté de Dieu sur nos vies. Et ce qui devient plus important, ce sont les richesses. Judas, je vous rappelle, que l'Éternel soit loué ou l'Éternel sera loué, va s'associer avec richesse, choix. Et foncièrement, c'est ce qui s'est passé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Satan a fait comprendre ou a essayé de faire comprendre, a convaincu plutôt Adam et Ève qu'ils étaient pauvres en fait, qu'ils étaient en dessous des prétentions qu'ils pouvaient avoir, qu'ils étaient bien en dessous de la stature immense qui serait la leur s'ils avaient effectivement pris une bouchée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va leur dire, c'est pour ça que Dieu vous empêche, parce qu'il sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir connaissant, vous allez devenir grand comme des dieux, vous allez devenir fort comme des dieux. Et je fais exprès de mentionner les termes que j'ai mentionnés là, parce que vous allez voir que ça apparaît dans la suite de l'histoire. Donc Adam et Ève, rendus dans cet état où ils se disent « Mais on ne s'est jamais rendu compte qu'on était pauvres. On ne s'est jamais rendu compte. Quand ils vont pécher, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Ils ne savaient pas avant. Ils ne savaient pas qu'il leur manquait quelque chose, qu'ils pouvaient prétendre à plus, bien entendu, entre guillemets, selon les dires de l'ennemi. Donc, l'ennemi va essayer de leur dire « Vous êtes pauvres et vous pourriez être riches. » Et Judas, lorsqu'il va s'associer avec Shua, c'est cette même idée qu'on peut associer. Il laisse de côté la louange qui était vouée à Dieu pour se concentrer sur la richesse. Et voici comment il va nommer ses trois enfants. Er, Onan et Sheila. Er va s'appeler Éveil. Le mot Er, E-R, le nom de son premier fils, le premier mari de Tamar, c'est Er, éveil. Et éveil de l'esprit, apprentissage de quelque chose. Ne plus être endormi psychologiquement ou endormi intellectuellement, mais être éveillé, être perspicace. Le diable, c'est ce qu'il dit à Adam et Ève. Il dit, si vous désobéissez à Dieu, si vous ne respectez pas cette règle de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas mourir. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir comme des dieux. Donc, il y a cet éveil intellectuel qui est prôné par le diable et qui va attirer, qui va aguicher Adam et Ève et qui vont pécher. Le deuxième fils de Judas, c'est Onan. Onan veut dire force. Onan, O-N-A-N. Je répète, Onan, O-N-A-N. Le deuxième fils de Judas, donc le deuxième mari de Tamar, qui veut dire force. Vous allez devenir comme des dieux. Et Adam et Ève étaient obligés de constater qu'ils étaient beaucoup plus faibles que Dieu. Mais Dieu veut vous garder pauvres. Il veut vous garder ignorants. Et il veut vous garder faibles. Et c'est comme ça qu'il trompe Adam et Ève. Et le troisième fils de Judas s'appelle Sheila, S-H-E-I-L-A. Oui, je sais, dans la tradition très moderne ou dans le monde moderne, Sheila est devenu un nom féminin. Mais à l'époque, au moins dans la tradition juive de l'époque, Sheila était un nom masculin. Donc Sheila, S-H-E-I-L-A, qui veut dire exigence. Durant toute l'histoire d'Adam et Ève, avant le péché, ils n'ont rien demandé. Ils étaient pleinement satisfaits. La provision de Dieu était pleinement suffisante. Ils n'avaient pas d'envie, mais tentés par le diable, amorcés par le diable, ils vont aspirer à connaître davantage, aspirer à être plus riche, aspirer à être plus fort, aspirer à exiger leurs droits, et ce faisant, ils amènent l'humanité dans le péché. Lorsqu'on regarde les noms des trois enfants de Judas, c'est quand même très loin de la tradition que leurs parents avaient eue à leur égard. Depuis Abraham, Jacob, Isaac, Ésaü, tous les noms, Judas et tous ses 12 et ses 11 frères, étaient aussi des noms qui avaient une consonance spirituelle. Et là, Judas va briser la tradition en se mariant avec quelqu'un qui veut dire richesse, en demandant l'éveil intellectuel à travers R, en demandant la force, non pas la force de l'Éternel, mais la force personnelle, la force brute de l'homme, à travers Onan, et en exigeant des choses à travers Sheila. C'est tout bonnement l'histoire de l'humanité et l'histoire de la chute de l'humanité. À travers ces 4 ou 5 noms qu'on vient de voir, on peut assurément faire le lien avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsqu'Adam et Ève vont être tentés par le diable, rendus insatisfaits de leur situation. C'est vraiment, quand on regarde avec du recul aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Regarde tout ce qu'ils ont, regardez ce qu'ils ont perdu en étant chassés du jardin d'Éden. Ils n'ont rien gagné, ils sont effectivement morts. On est tous devenus mortels à partir de ce moment-là. On a dû commencer à travailler, à se nourrir à la sueur de notre front. Les femmes ont commencé à avoir des douleurs pour l'accouchement. On n'a plus dominé sur la création comme on le faisait avant. On a perdu notre place qui était importante auprès de Dieu. On a perdu notre communion avec Dieu. On a perdu cette relation intime avec Dieu à cause de ce péché originel qui n'était poussé que par l'avardise, que par l'égoïsme, que par la gourmandise et par les d'Adam et Ève et par les mensonges du diable. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que Judas a 3 fils et ces 3 fils-là ne lui fournissent pas une descendance. La progéniture déchue est incapable d'assurer une digne postérité à Dieu. À cause de notre péché, nous ne pouvions plus être ses enfants de Dieu. À cause de ce péché originel, à cause de notre rébellion envers Dieu, nous ne pouvions plus offrir à Dieu une descendance. Nos enfants avaient été corrompus à cause du péché originel et de génération en génération, c'est ce qui se passe. Donc Dieu se retrouve après avoir créé l'homme qui était dans son désir, dans son plan d'avoir cette communion intime avec l'homme, mais à cause du péché originel, cette descendance, cette progéniture, cette postérité que Dieu voulait pour lui, a été tachée et a été chassée de la présence de Dieu. De l'état déchu dans lequel se trouvait cette famille-là, Judas lui-même a été celui qui a assuré sa propre postérité. Et je ne dis pas ici, oui, je fais le lien avec le fait que Dieu va susciter un deuxième Adam, que Dieu lui-même va susciter un deuxième Adam pour se susciter lui-même un peuple qu'est l'Église aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire que ce que Judas a fait était correct avec Tamar. Ce que je suis en train de dire, c'est que Judas, pour avoir sa propre postérité, a dû prendre les choses en main à son insu, mais c'est lui-même qui s'est donné une postérité. Dieu, dans le cadre de l'Église, s'est lui-même donné une postérité. La Bible nous dit qu'il s'est donné un peuple avec le peuple d'Israël. Il a choisi Abraham et il s'est donné le peuple qui descendait de la descendance, c'est redondant, mais qui sortait de la descendance d'Abraham. Mais de surcroît à cela, Dieu s'est aussi donné une Église qu'il bâtit lui-même, qu'il construit lui-même, une épouse qu'il s'est lui-même fondée avec Christ à la tête de ce corps de Christ qu'on appelle l'épouse, qu'on appelle l'Église. Donc le seul qui pouvait, une fois de plus, susciter une humanité qui ne serait pas déchue, une humanité qui serait restaurée, une humanité qui pourrait effectivement le célébrer, revenir à cet état initial de louange à Dieu, c'était Dieu lui-même qui pourvoyait l'Église. L'autre point qui est intéressant dans l'histoire de Tamar, c'est que Tamar va être enceinte. Et Tamar ne va pas donner simplement un fils, mais deux fils. Et l'histoire de l'accouchement, c'est là où on a l'image de l'Église et du peuple juif. La Bible nous dit qu'il y a un premier enfant qui va se présenter, Zara. Et il va en fait sortir le bras. Et lorsqu'il va sortir le bras, la sage-femme, la femme qui est là pour aider, va attacher le poignet de Zara avec un cordon rouge. Et au lieu de continuer sa sortie, Zara va se rétracter dans le ventre de sa maman, va être doublée par l'autre fils, Pharez, qui va sortir en premier. Et c'est vraiment cette histoire du peuple juif qui était peuple de Dieu, descendance d'Abraham, qui va par la suite être doublée par l'Église, qui est l'ensemble des croyants rachetés par notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Zara veut dire lever du soleil ou celui qui voit le jour en premier. Donc Zara, avec son poignet attaché, on dit mais c'est lui le frère aîné. Il aurait dû voir le jour en premier, mais Pharez, qui veut dire faille, qui veut dire brèche, va prendre cette brèche qui lui est offerte et va en profiter pour passer au-devant de Zara. Et c'est ainsi que les premiers seront les derniers seront les premiers. L'Église est venue à prendre cette place prédominante dans l'histoire de l'humanité, prédominante dans le plan de Dieu, lorsque le peuple d'Israël s'est rétracté par rapport au Messie qu'était Jésus. En fait, lorsqu'on parle de Tamar ici, dans la généalogie, dans le premier chapitre de Matthieu, dans ses premiers textes du Nouveau Testament, Tamar est encore une fois en train d'annoncer l'Église. L'Église qui va démarrer 3 ans et demi, mais en fait, plus que ça, puisque Matthieu commence avec la naissance de Jésus, mais 3 ans et demi après la rencontre de Matthieu avec Jésus, lorsque Jésus va être mis à mort, lorsqu'il va ressusciter, et puis par la suite, lorsqu'il va être enlevé, que la Pentecôte va se passer 50 jours après la mort de Jésus, c'est là qu'on dit que l'Église a officiellement démarré. L'Église était dans le plan de Dieu depuis toujours, puisque dans l'image même de Tamar et de ses deux fils, on a cette image du peuple juif et de l'Église qui supplante le peuple juif. Donc, dans la pensée de Dieu, l'Église a toujours été un objectif. Dieu a toujours, en fait, regardons clairement, il n'y avait pas une histoire de peuple autre que celui d'Adam et Ève au départ. Le plan de Dieu était qu'Adam et Ève remplissent la terre, qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent la terre, mais qu'ils la remplissent avec des hommes et des femmes qui étaient tournés vers Dieu. Avec l'Église, Dieu fait exactement la même chose. Et en fait, la Nouvelle Jérusalem, le retour de Christ, notre éternité dans la vie éternelle, c'est un retour à cet état merveilleux qu'était celui de l'homme avant le péché originel d'Adam et Ève. Donc à la base, Dieu ne voulait pas séparer les peuples, ça a été à la tour de Babel que ça s'est fait, à cause de la méchanceté des hommes, Dieu a été obligé de les disperser. Lorsqu'on regarde la première dispensation de l'humanité, la dispensation de l'ignorance qui arrive avant le péché originel, le plan de Dieu, c'est que Adam et Ève se renouvellent, se multiplient et qu'à travers eux, la terre soit remplie d'autres personnes qui adorent Dieu, qui servent Dieu et qui vivent dans la crainte de Dieu. Donc, Tamar est une merveilleuse histoire lorsqu'on la replace dans le contexte du plan et du calendrier éternel de Dieu. Quelle est la morale pour toi aujourd'hui? Mais la morale pour toi, c'est que peu importe par où tu es passé, peu importe quelles sont les circonstances scabreuses qui ont pu être les tiennes aussi, peu importe quelle a été l'histoire peu reluisante qu'est ton existence, de toi peut quand même jaillir le peuple de Dieu. De toi peut quand même jaillir un enfant de Dieu. Hier, j'avais quelqu'un qui m'a écrit, je nommerai pas la personne bien entendu, et qui me disait que la prédication d'hier, et c'est un jeune homme, que la prédication d'hier l'avait énormément touché parce que lui-même est fruit de ce qu'on pourrait appeler un viol. Sa maman aurait été violée et c'est lui qui en est sorti, c'est lui qui est né. Et il disait, j'avais beaucoup de misère avec ma propre naissance. Même dans une situation aussi sombre que celle qu'il me dépeignait, il a compris qu'il était quand même dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur et qui le sert avec un cœur merveilleux et qui le sert avec un entrain profond. Peu importe quelle est la situation que tu as pu connaître, peu importe l'injustice qui a pu être la tienne, peu importe même les situations sombres dans lesquelles tu peux toi-même t'être précipité et lancé, j'aimerais te dire que de toi peut encore jaillir la vie, que Dieu veut encore t'utiliser pour sauver, pour racheter et pour faire une suite glorieuse à ta vie. Alors prions ce matin. Seigneur, merci pour ta mort. Merci pour Tamar, parce qu'elle nous rappelle, Seigneur, que même au plus sombre de notre existence, même dans les erreurs les plus graves qui peuvent être les nôtres, tu es encore celui qui est capable de transformer et de changer le cours de notre vie. Seigneur, Tamar nous rappelle que le plan de l'Église a toujours existé. Que le plan de salut de ceux qui n'étaient pas juifs a toujours existé pour toi. Ça veut donc dire, Seigneur, que moi, ma sœur, mon frère, mes amis qui ne sont pas juifs, on a tous été désirés par toi pour être membre de ta famille, de ton peuple. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour cette grâce. Je prie pour ma sœur ou mon frère ce matin, pour notre ami, Seigneur, qui serait peut-être dans une situation où il se dit, j'ai été conçu de la mauvaise façon, j'ai été conçu dans le mauvais contexte. Je me suis moi-même lancé dans une situation terrible. Seigneur, je prie que l'histoire de Tamar les éclaire aujourd'hui. Comme quoi, Seigneur, il y a une suite à leur vie. Comme quoi, Seigneur, il y a une suite glorieuse à leur vie. Tu fais effectivement lever le soleil. Tu permets, Seigneur, que dans cette prison qu'ils peuvent ressentir autour d'eux, il y ait une brèche à travers laquelle ils peuvent sortir. Tu leur permets à eux aussi, Seigneur, d'être utilisés à ta gloire et d'être utiles à ta gloire, malgré le péché commis. Malgré, Seigneur, les situations qui n'élevaient pas ton nom dans lesquelles on a sombré. J'appelle, Seigneur, la restauration dans la vie de ma sœur. J'appelle la guérison dans ses pensées, dans son âme, dans son esprit. Seigneur, aujourd'hui, tu panses les plaies. Aujourd'hui, Seigneur, tu rappelles à ta fille, tu rappelles à ton fils que tu les as toujours désirés. Que tu les as toujours voulu et que s'ils te permettent d'accomplir ton plan parfait à travers eux, Seigneur, tu les restaures, tu les régénères et tu les utilises à ta gloire, dans ta pleine gloire, dans ta pleine puissance. Seigneur, ce matin, nous revenons à Judas, nous revenons à te louer. Nous te louons parce que tu es bon, nous te louons parce que tu es digne. Nous te louons parce que tu es amour. Nous te louons, Seigneur, parce que tu as été tellement miséricordieux envers chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Et remplis, Seigneur, leur cœur aujourd'hui de joie et de paix. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà ce qui met un terme à notre rencontre de ce matin. Juste voir si je peux saluer quelques personnes. Je remonte un peu. Donc, la dernière personne que j'ai vue se connecter, elle était la sœur Teresa, donc on la resalue. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Andrés, à Samantha. Bonjour à Lucie. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour à Farley, à Marie-André, sa maman. Bonjour à Julie. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour à Méreste, à Suze et à la petite famille. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Diane. Bonjour à Myriam et à Donald. Voilà, et les autres, je crois que je vous ai tous salués, en tout cas ceux que je peux voir sur mon écran. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Demain, on étudie Rahab. Encore une histoire qui est à la base pas reluisante, mais qui est merveilleuse dans sa conclusion. Donc demain, Rahab, aujourd'hui Tamar, on continue dans l'étude des cinq femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Passez une bonne journée, sachez que vous êtes aimés, Dieu vous aime. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas le fruit des circonstances, vous êtes le fruit du plan éternel de Dieu, et ce plan, il veut l'accomplir pour vous, avec vous, à travers vous. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.